Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le résultat en exclusivité de BFM Business sur les législatives, l'économie a déjà perdu. En tout cas, c'est moi qui dis ça ce matin, on va en discuter. Pourquoi le chômage et le plein emploi ont disparu totalement du débat politique? On a globalement en économie parlé que de pouvoir d'achat. Et puis il y a un autre élément, alors qui n'émeut absolument personne, c'est cette tentation récurrente de renier les engagements européens de la France, comme si c'était un simple détail. Si nous voulons revenir à un solde budgétaire primaire positif, il faut mobiliser 100 milliards d'euros en 4 ans, chiffre publié par l'Institut Bruegel. Et puis cette phrase d'Éric Le Boucher dans Les Échos, la France va plutôt bien, mais l'exercice est de ne surtout pas le dire, écrit-il ce matin. Enfin, comment les marchés peuvent réagir dès lundi prochain, 1er juillet? Et bien sûr, la question est la même pour le lendemain du second tour, le 8 juillet. On regardera aussi à quoi peut ressembler l'Europe version Ursula von der Leyen. Bonjour Laurence Boone.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, membre de l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales. Vous êtes économiste et vous avez été secrétaire d'État chargé de l'Europe. C'est justement avec vous qu'on parlera d'Europe tout à l'heure. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Économiste, vous êtes membre du Cercle des économistes. On va se retrouver dans quelques jours à Aix. Et vous êtes l'auteur, le co-auteur de Quelle France en 2050? Vous mettriez 2050 là maintenant ou Quelle France le 8 juillet 2024?
C'est plus facile 2050 que juillet 2024.
Oui. Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob. Bonjour Philippe Manière.
Bonjour.
Président de Vaisolis Communication, vous avez publié Le Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Oui, ce matin, je dis l'économie a déjà perdu. Toutes les mesures qui nous sont proposées sont toutes frappées du bon sens. Elles sont toutes évidentes. Elles sont intuitivement justes et elles vont forcément améliorer ma vie. Si je mets 200 euros dans le SMIC, je mets de l'argent, il y a de l'argent. Donc le pouvoir d'achat s'améliore. Si je baisse la TVA d'un produit hyper taxé comme le carburant, bien sûr que le prix doit baisser puisque j'ai retiré des taxes. Si je vais à 62 ans ou 60 ans à la retraite, je vois pas qui est contre en fait. Tout le monde est pour. Qu'est-ce qu'on attend? Si je bloque les prix du quotidien, on a eu 2 ans d'inflation. Ce serait peut-être temps de s'y mettre, effectivement. Les riches vont payer. Oui, l'argent est là. C'est logique d'aller chercher l'argent là où il est. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'argent va venir de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il serait peut-être temps de s'y mettre. C'est vrai, l'État va nous donner du pouvoir d'achat. Tout ce que j'ai dit là, c'est intuitif pour tout le monde. Et bien pourtant, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et quand on décortique chacune des mesures, c'est pas les gens qui sont autour de cette table probablement qui vont me démentir, c'est difficile de les valider et elles passent difficilement l'exercice de l'analyse. Si je vous dis que l'économie a perdu, Patrick Artus, on a parlé énormément d'économie, et finalement il n'en reste rien.
Mais le problème, c'est que tout ce que vous venez de dire est exact, mais une très grande majorité de Français ont une vision très keynésienne de la politique économique. Et donc, regardez les chiffrements de Valérie Rabault, par exemple, du programme du Front Populaire. J'augmente les dépenses publiques, j'augmente le SMIC, j'embauche des fonctionnaires, il y a plus de revenus distribués, il y a plus de production, ça permet de financer un supplément de dépenses, on a 3% de croissance chroniquement, et ce qui est totalement absent de réflexion, c'est les effets d'offre. Par exemple, que quand vous avez des taux d'imposition supérieur à un certain seuil, ça décourage l'investissement, ça décourage les entreprises étrangères de venir en France, ça décourage probablement de travailler, et personne ne raisonne en termes d'une balance raisonnable entre la stimulation de la demande et la stimulation de l'offre. Et je crois qu'on a, si vous avez cette vision strictement keynésienne de l'économie, vous pouvez assumer d'avoir des taux d'imposition très élevés, de redistribuer c'est l'argent des riches aux pauvres, parce que les pauvres consomment plus que les riches, et donc vous aurez davantage de production, etc. Mais vous ne réfléchissez pas au fait que vous aurez moins d'épargne, et parce que c'est les riches qui épargnent, et donc que vous ne pourrez pas financer les investissements. Donc il y a un défaut d'analyse qui est très commun, qui est l'ignorance des effets d'offre.
Alors, je pense que ce qui fait vendre, c'est votre première photographie de la demande, beaucoup plus que la photographie de l'offre. Et la politique, c'est de la vente. On vend quelque chose. Il faut des acheteurs.
Mais on a déjà essayé des politiques strictement de la demande. Et effectivement, en général, l'année 1, vous avez un supplément de production parce que vous avez un supplément de consommation. Et l'année 2, vous avez la chute de l'investissement, des problèmes de commerce extérieur, des problèmes de financement, des taux d'intérêt qui montent. Et vous êtes obligé de passer à une politique de rigueur.
Bonjour Pierre Mauroy. Ah. Bonjour 1980.
Bah oui, oui, mais c'est systématiquement bon, ça que
Laurence,
vous avez observé.
Mon scoop du jour, l'économie a déjà perdu, le premier résultat de l'élection est connu.
Non, mais je voudrais juste rebondir. Et il faut rappeler que la France est à la fois championne du monde des impôts et des dépenses publiques et championne du monde de l'insatisfaction.
Donc il y a on est champion du monde de l'insatisfaction.
Mais ouais. Les Français ne sont jamais heureux de, ouais. ne sont pas heureux de leur situation et c'est sûrement raisonnable dans une partie des cas, c'est sûr. Mais il y a quand même un problème sur lequel il faut se pencher, qui est pourquoi est-ce qu'on a cet écart colossal entre ses dépenses et ses recettes, avec un pays aussi qui a connu le moins d'évolution des inégalités de tous les pays de l'OCDE, qui est le plus redistributif de tous les pays de l'OCDE, et qui a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans et le taux d'emploi le plus élevé depuis 40 ans. Alors il y a peut-être deux explications à ça. Il y a une explication qui est la répartition entre les territoires. Il y a effectivement des territoires qui vont mal avec des gens qui souffrent. Il faut peut-être se poser cette question de répartition, notamment dans la santé. Et puis, il y a plein de petites choses dont on n'entend pas du tout parler. Vous prenez la santé. Chaque année, au mois d'octobre, on a la grippe. Chaque année, il faut passer une loi pour augmenter le nombre d'heures des infirmières. Et si on augmente le salaire des infirmières, on ne s'intéresse pas qu'aux infirmières. Notre système est tel qu'il faut augmenter le salaire de toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital à cause de la grippe. Donc vous ne pouvez pas augmenter les infirmières sans augmenter la réceptionniste, sans augmenter le médecin, sans augmenter le directeur de l'hôpital. Donc on a ces rigidités dont personne ne parle, mais qui d'une part nous contraignent terriblement et d'autre part nous coûtent très cher.
Philippe, pour terminer le tour de table d'ouverture.
Vous avez commencé l'émission, Nicolas, en citant Bastiat, hein, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, douce musique à mes oreilles. Le problème, c'est ça, c'est la méconnaissance par les Français de leur propre génie économique, parce que nous avons donné à la science économique et à la réflexion politico-économique, puisque pendant un temps, c'était quasiment la même chose, pratiquement les plus beaux esprits pendant des années. On a évoqué Bastiat,
etc.
Malheureusement, personne ne le sait. Moi, j'ai entendu parler de Bastiat la première fois dans un voyage aux États-Unis. Personne ne m'en avait jamais parlé en France, ou pourtant j'avais eu la chance d'avoir fait des études convenables. Donc, si vous voulez, cette évidence qui est évidente dans tous les pays anglo-saxons, pour faire simple, que oui, il y a ce qui se voit et ce qui ne voit pas, attention, il y a les effets pervers, en France, les gens n'ont pas ça en tête. Alors, j'ajoute quand même quelque chose, c'est que. Moi, c'est ça qui fait que j'en voudrais toujours à Emmanuel Macron, qui a fait des choses bien par ailleurs, en particulier en termes de politique de l'offre, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je pense qu'il a fait quelque chose d'absolument criminel par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire la méconnaissance des Français des mécanismes.
La méconnaissance, le refus.
Je suis pas paranoïaque et je veux pas condamner nos concitoyens si personne leur a jamais dit et s'ils ont jamais été obligés de réfléchir au sujet parce qu'on leur l'a pas demandé, c'est pas anormal qu'ils ne sachent pas. Moi, un ignorant, on peut pas lui en faire grief. Les gens qui ne savent pas, c'est parce qu'on ne leur a pas dit. Et on leur dit même le contraire. Je reviens à ce que je disais sur Emmanuel Macron. Au moment du Covid, la terre entière, évidemment, indemnise. C'est normal, on ne peut pas faire autrement. Mais nous avons été ceux qui ont indemnisé le plus. Je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau. Moi, j'avais des amis galeristes, restaurateurs qui ont fait leur meilleure année en 2020. Les doigts de pied en éventail aux Bahamas, le magasin fermé. Est-ce normal? Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous trahissez ce qu'est le mandat d'un politique. Gouverner, c'est choisir. Quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous envoyez le message aux Français qu'il y a de l'argent, que c'est seulement une question de volonté, si on en a ou on n'en a pas. Ça me rappelle une conversation, puisque j'évoquais Bastiat, pardon, je finis mon petit propos liminaire sur ce point, en citant un autre philosophe politique, qui était Antonis de Jazet. Très bel esprit, un Hongrois qui avait émigré en France, puis au Royaume-Uni, qui connaissait bien la France, mais qui la regardait encore un peu avec un œil extérieur. Et il m'avait dit qu'il avait été très étonné, je crois qu'il a fait un papier même dans le Wall Street Journal sur le sujet, par ce commentaire qu'on entend souvent en France, le gouvernement a débloqué des crédits, débloqué. Et bien en anglais, c'est unblock, c'est comme s'il y avait un esprit malin, vous voyez, qui retenait un lac de ressources et de bonheur, mais il y a des gens méchants qui bloquent, et heureusement, de temps en temps, grâce au courage du peuple qui conteste, on débloque. C'est-à-dire qu'il y a le concept d'une espèce de corne d'abondance qui serait là, disponible, mais que les gens qui sont au pouvoir parce qu'ils sont méchants ne veulent pas mobiliser. Donc on est dans cette fantasmagorie, dans cette représentation qui est franchement alternative, faute de culture économique. Et encore une fois, j'y insiste, je me permets d'y insister, même si c'est pas très obligeant à son endroit, le président de la République a entretenu ça. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu cette espèce de folie du chèque. Vous voyez, les Français, on le disait tout à l'heure, on n'ont pas vu leur pouvoir d'achat baisser statistiquement. Bien sûr, il y a des gens qui ont souffert. La statistique, il y a toujours une dispersion. Mais les Français sont ceux dont le pouvoir d'achat a été le plus préservé dans l'Union européenne et même quasiment dans l'OCDE, malgré la crise en Ukraine et avant le Covid, les Français n'en savent absolument pas gré. Ce que je retiens comme leçon de cette séquence, c'est qu'il ne faut pas donner de l'argent gratuit parce que les gens oublient qu'on le leur a donné. Enfin, pardon, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner de l'argent aux gens qui en ont besoin, entendons-nous bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la dispensation comme ça, sans limite d'argent au motif qu'il y a une raison exogène d'être contrarié, n'a pas de sens, ni économique évidemment, ni politique. C'est ça qu'on voit. Le président de la République qui a le plus débloqué, comme aurait dit Anthony de Jazet, est celui qui est le plus détesté. C'est un paradoxe dingue, mais enfin, il faut en tirer les leçons pour l'avenir.
Laurence Boone, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais juste dire quelque chose. C'est pas très juste de dire qu'il n'y a pas eu d'explication. Tout le premier mandat d'Emmanuel Macron est sur la politique de l'offre. Tout le premier mandat d'Emmanuel Macron est de libérer l'énergie des entreprises, de baisser des impôts sur les entreprises, de rendre la France attractive, Choose France. Je peux vous assurer que les 26 autres Européens trouvent que c'est génial et se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire ça ou le faire au niveau européen.
C'est juste.
Donc, et aujourd'hui, c'est vrai, jusqu'à la dissolution, l'image de la France comme terre d'investissement était bonne. Les entreprises du Brexit sont venues ici, les Américains viennent, etc. Donc je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'explications sur la politique d'offre. Le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, effectivement, tout le monde l'a fait.
Oui, mais pas si longtemps et pas avec le même quantum.
Je vais finir.
Pardon.
Je vais finir parce que tout le monde l'a fait. Les entreprises étaient très contentes d'avoir les prêts, etc. Ça leur a permis de garder des personnes. Ça a duré trop longtemps. Ça c'est juste. Et je crois qu'on entend de tous les politiques aujourd'hui, effectivement, que des dépenses, comme si l'argent était gratuit, comme si les 500 fortunes de France, juste en redistribuant toutes leurs actions d'entreprise, puisqu'en général c'est ce qu'elles ont, allaient pouvoir résoudre les problèmes de la planète, ce qui est de la France en particulier, ce qui est un peu une insulte à l'intelligence des Français. Et d'ailleurs, j'en profite.
Allez-y,
on aimerait entendre un politique dire, voilà, on est sur le podium des impôts et des dépenses publiques de l'OCDE. Mon objectif, au bout de 5 ans, ça sera d'être numéro 3 ou numéro 5. Et ça serait un énorme changement.
Un dernier exemple, je donne la parole à Patrick Artus, mais ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. On a entendu qu'on allait et qu'il fallait réindexer les salaires sur l'inflation. Des indexations qui a quand même été prononcées par les socialistes dans les années 80. Alors, ce qui se voit, c'est que c'est logique que les salaires suivent l'inflation, parce que s'il y a de l'inflation, moi je perds du pouvoir d'achat, enfin mon salaire réel régresse. Et puis regardez, la Belgique l'a fait, ça se passe très bien. Oui, mais ce qui ne se voit pas, c'est que les marges des entreprises belges sont sérieusement rognées, parce que c'est un pays très ouvert au centre de l'Europe, ils ne peuvent pas se permettre de répercuter toutes les hausses de salaire sur les prix, donc la compétitivité des entreprises souffre là-bas. Et puis en 96, on a érigé un super garde-fou. Tous les deux ans, les partenaires sociaux décident une forme de plafond qu'on ne dépassera pas. Ce n'est pas une véritable indexation totale des salaires sur l'inflation. Et puis en cas de désinflation, cette fois-ci, c'est l'austérité salariale qui s'installe en Belgique. Donc il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Bon, Patrick, allez-y, on avance.
Je crois que quand on parle de politique de l'offre, il faut distinguer deux choses. Je pense qu'il y a eu un succès de la politique d'Emmanuel Macron, c'est les politiques de l'offre fiscale, c'est des politiques de relance de l'industrie dans des secteurs stratégiques. La flat tax à 30%, ça fait du bien, ça fait monter l'investissement des entreprises. L'essentiel, d'abord, de la baisse de la pression fiscale sur les entreprises est investi, et pas distribué aux actionnaires. Voilà. Mais je crois qu'il y a eu un autre segment où les politiques de l'offre ont été déficientes, c'est le segment qui touche à l'investissement technologique. On a un investissement en nouvelles technologies en France qui est extrêmement bas, qui est plus bas que la moyenne européenne, plus bas que la moyenne de l'OCDE, beaucoup plus bas. C'est les dépenses de recherche-développement. Les dépenses de recherche-développement, c'est 2,2% du PIB. C'est 3,5% aux États-Unis, etc. Et
mais
donc,
ça, c'est le privé. C'est les entreprises. Pourquoi
les entreprises, on a beaucoup donné d'argent aux entreprises et finalement sans contrepartie sur sur l'autre moitié de la politique de l'offre. Et donc je crois que le résultat c'est cette contradiction qui est qu'on a fait des politiques de l'offre, elles ont fait monter le taux d'emploi, elles ont fait monter le taux d'investissement et elles ont fait baisser la productivité parce qu'elles n'ont pas été associées à des politiques d'investissement technologique, de recherche, de développement de nouveaux produits. Et ça, je crois que tout notre problème et toute l'attente, en fait, effectivement, qui ne peut pas être satisfaite des Français, ça, ce problème vient du recul de la productivité. Oui. Et dans un pays où la productivité recule, bah, évidemment, il y a un problème de conflit, de distribution des revenus, de partage des revenus, puisque chacun, le gâteau est diminuant, chacun ne veut pas voir sa part du gâteau diminuer. Et puis, c'est très anormal. Regardez les États-Unis, il y a 2% de productivité par an. Et ils ont fait aussi des politiques du quoi qu'il en coûte, etc. Et parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses technologiques, il y a beaucoup plus de dépenses d'entreprises en recherche et développement, il y a beaucoup plus de dépenses universitaires. Et je crois que la pauvreté des universités aussi en France est critiquable. Et donc, on n'a fait qu'une demi-politique de l'offre en réalité.
C'était l'aspect que mettait en avant effectivement Éric Ayer tout récemment pour pondérer le grand enthousiasme qu'il y a sur les 10 années de politique de l'offre en France. Vous voulez réagir?
Oui, non, parce que sur la productivité, par exemple, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ignorance. Et encore une fois, je ne le mets pas au débit de ceux qui sont ignorants, l'ignorance des Français sur le sujet. Il est très rare en France que quelqu'un, dans un débat, indique que la seule manière de s'enrichir, c'est de produire plus. Et que pour ça, il y a, pas faire mon Karl Marx sur un coin de table, mais il faut mobiliser les facteurs de production, capital, travail. Voilà. Donc il faut avoir un peu de capital. Si on le chasse, ça marchera moins bien. Il faut que les gens bossent. Si on arrête de bosser, ça marchera moins bien. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Puis il faut des gains de productivité. Bon, si vous avez en tête que les gens s'enrichissent sans gains de productivité, Vous trichez par rapport aux mécanismes économiques. Donc, vous pompez de l'argent sur les générations futures via l'endettement. Ou vous pompez de l'argent sur l'étranger qu'il faudra rembourser. Donc, c'est un problème de déséquilibre extérieur. Enfin, pardon, Patrick Artus, je dois y aller vraiment à la serpe par rapport à la réalité économique fine que vous maîtrisez mille fois mieux que moi. Mais on voit bien que sans productivité, il n'y a pas d'enrichissement légitime ou dolosif pour une autre génération. D'une manière ou d'une autre.
C'est vrai que le mot n'apparaît pas dans les programmes.
Moi, je trouve qu'on en parle un peu plus. Moi, j'étais assez heureusement surpris. Depuis 8 jours, j'ai parfois entendu mentionner la question de la productivité. Parfois entendu, il faut d'abord créer avant de distribuer. Les gens qui le disent sont relativement courageux. Je sais d'ailleurs même plus qui le disait, pour être très honnête. Hein. Mais parce que ça vole pas très bien. Mais c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire. Parce que tant que les gens n'auront pas compris ça, ils prétendront de bonne foi, et je ne leur en veux pas encore une fois, travailler moins, gagner plus. Et que tout marche, c'est pas possible. Un dernier point sur la productivité. Ce que dit Patrick est parfaitement juste. Il y a quand même, en gros, que les États-Unis qui ont plus de problèmes de productivité, qui ont pas de problèmes.
La Corée.
D'accord, mais en Europe, on est tous encalminés sur
le sujet.
C'est un peu un mystère. C'est un peu un mystère.
L'Italie a des gains de productivité.
Oui. Pas,
Laurence Boone.
C'est pas tellement un mystère. Ce mystère s'explique. Non, le mystère s'explique. Vous regardez les États-Unis et Patrick y faisait allusion, où sont les entreprises du numérique et des nouvelles technologies? 75% de la valeur de la capitalisation boursière de ces entreprises est aux US et le reste est en Corée et en Asie. Il n'y en a pas en Europe. Où est-ce qu'on est fort? Dans des entreprises manufacturières traditionnelles, l'automobile, la production d'équipements, etc. Où est la créativité digitale, technologique? Elle est dans les entreprises du numérique. On a deux sujets. Un, c'est qu'on en crée, on n'en fait pas assez, on n'en produit pas assez. Et deux, c'est qu'on n'en adopte pas assez, ce qui explique aussi le ralentissement de la productivité. Et pourquoi? Parce que quand vous équipez, moi j'étais dans une entreprise, vous y avez été aussi, quand vous équipez en numérique, et Patrick a fortiori dans une banque, une entreprise, ça veut dire qu'il faut réorganiser le travail de tous les salariés de l'entreprise. Ça demande une flexibilité à laquelle on n'est pas très habitué.
Ouais. Avant de marquer une pause, est-ce que vous comprenez que le chômage et le plein emploi aient totalement disparu du débat?
Oh bah oui. Bah
est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Je pose la question pour ça.
C'est parce que 80% des partis politiques et des Français pensent que si on stimule la demande, définition, il y aura des emplois, moins de chômage, etc. Donc c'est le corollaire de la conviction que la seule politique faisable, c'est une politique de stimulation de la demande, que cette politique va d'ailleurs assez largement, que cette politique va assez largement s'autofinancer. financer parce qu'elle va, elle va faire un supplément de d'activité et que donc cette politique de stimulation de la demande va créer des emplois. Et à nouveau, c'est l'ignorance des effets d'offre. C'est, mais si vous êtes dans un monde de bisounours où, c'est très simple. C'est les riches qui épargnent, c'est les pauvres qui consomment. Donc vous prenez l'argent des riches, vous le donnez aux pauvres. Donc vous avez davantage de consommation et vous avez que des effets vertueux. Ouais. Vous avez davantage de production, davantage d'emplois, davantage. Qu'est-ce qui va pas ça? Comme vous avez plus d'épargne des riches, vous avez plus d'investissement et votre économie descend par rapport aux autres économies avec le sous-investissement chronique. Mais ce sous-investissement chronique, personne, aussi bien à gauche qu'au Rassemblement national, n'évoque comme conséquence. Personne ne pense que une redistribution massive vers les moins riches, ça fait baisser l'épargne, ça fait monter la consommation, et donc ça dégrade le commerce extérieur, ça dégrade l'investissement.
Mais je pense qu'il y a...
On marque une pause juste après.
Je pense qu'il y a deux choses. Le pouvoir d'achat, la hausse du pouvoir d'achat, c'est la hausse de l'emploi et c'est la hausse des salaires. À partir du moment où c'est assez difficile à entendre, pour les raisons qu'ont expliqué Philippe et Patrick, et que par ailleurs, quand vous augmentez les salaires, surtout sur les bas revenus, beaucoup par en charge, en cotisation et en impôts, effectivement, vous n'avez plus le sentiment que l'emploi paye. Donc, le thème du pouvoir d'achat vient de celui de la redistribution. Mais je pense qu'à l'inverse, quand on entend ceux qui proposent de baisser ces charges, on va redonner du pouvoir d'achat grâce à l'emploi. Et c'est, je crois, la politique d'offre dans laquelle on est en train de parler.
On marque une pause. Dans un instant, je vous donne la parole à Philippe Panière. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, notamment vous, Laurence, parce que vous avez fréquenté de près les questions européennes. Il y a quand même l'idée qui est passée quasi inaperçue. On va probablement pas tenir notre parole en Europe. Mais voilà. Et personne n'est ému par
comme
ça.
Comme d'hab.
Pas totalement comme d'hab. C'est pas parce qu'on respecte pas les règles budgétaires et qu'on se retrouve sous des procédures de déficit excessif que on fait un bras d'honneur aux gens avec qui on fonctionne. Et là, il y a quand même cette tentation. Bon, on en dira un mot dans un instant. On se retrouve juste après la pause.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Laurence Boone, membre du Conseil européen pour les relations internationales, économiste, Patrick Artus, économiste et co-auteur de Quelle France en 2050, face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob, également membre du Cercle des économistes, Philippe Manière, président de Veille Solis Communication. Patrick me disait juste avant le générique, il faut aussi parler de la complicité de la BCE. Bon, je le note, oui, je suis en train de le noter. Je vous ai quasi coupé la parole.
Oui, juste très brièvement, parce que c'est vrai que la disparition, mais j'avais fait un papier dans les échos il n'y a pas longtemps là-dessus, parce qu'on avait fait un sondage qui montrait manifestement que le chômage, la préoccupation de l'emploi, qui était numéro un, qu'il a été pendant 25 ou 30 ans.
Oui, elle est dans le 8e,
il y a 2-3 ans, elle a commencé à descendre, et puis maintenant elle est numéro 6, 7. Enfin,
oui, un truc comme ça.
Alors, il y a plusieurs explications, il y en a certaines qui ont été données, je ne vais pas y revenir. Il y en a quand même une qu'il faut mentionner et qui est bonne, c'est qu'il y a moins de chômeurs qu'avant quand même. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient d'évoquer, avec les plus et les moins, il y a quand même eu, au fil des 9 dernières années, un certain nombre de choses qui ont été faites qui font que le taux de chômage français, en gros, est tombé de 10 à 7. Enfin,
À peu près. Voilà.
Bon, alors,
presque à 10, on est
après,
on est un peu
est-ce que 7. Ça veut dire que c'est génial? Sauf que les Suisses, les Néerlandais, ils sont tous à 4, enfin entre 2 et 4. Quoi. Donc, c'est bien de passer de 10 à 7, mais tout le monde a évolué à peu près en parallèle, et nous, on reste plus élevé que les autres. Donc, on a des problèmes structurels qui n'ont pas été réglés. Mais tout de même, une des raisons pour lesquelles ce n'est plus un souci obsessionnel, c'est qu'il y a, en fait, on s'est beaucoup rapproché du chômage structurel. Et le chômage structurel, c'est pas facteur de perturbation psychologique et politique, parce que bon, tout le monde comprend qu'il y a un chômage structurel ou un chômage frictionnel. Donc, l'essentiel du chômage anormal a baissé, même s'il reste beaucoup trop élevé. Ça explique que
Mais ça revient à admettre que le plein emploi à la française, c'est 7.
Si au lieu de dispenser des faveurs fiscales indues, on avait continué à faire la politique de l'offre en baissant les impôts, à mon avis, on aurait baissé encore un peu plus. Bon, mais on va pas refaire ça comme ça entre nous. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est quand même effectivement ce qui a été dit, c'est que les gens sont obsédés par le pouvoir d'achat au point qu'ils ne voient plus ce qu'on leur a donné. Je rappelle quand même, encore une fois, moi, ça ne me paraissait pas une nécessité impérieuse. On ne pouvait pas faire autrement que de s'incliner devant les soignants au moment du Covid et tout. Le soignant moyen, à encaisser par mois après les négociations qui ont eu lieu à la sortie du Covid,
après le Ségur,
à peu près, Ségur, 500 euros.
Il y a eu des hausses, il y a eu des hausses substantielles pour les soignants.
Très substantielles. Et je suis heureux pour elles. Et je dis pas que c'est pas mérité. Mais quand on me dit que c'est la dèche et qu'il n'y a rien eu de fait, non.
Le niveau duquel ils partaient, les soignants, n'est pas élevé. Je suis désolée.
J'ai pas dit ça, mais j'ai dit que 500 euros en net, précisément sur l'effet de base, pardon, mais en proportion de ce qui était distribué avant, même si on est d'accord sur le fait que c'était pas beaucoup, ce sont des efforts très considérables qui ont été faits par la nation. Donc quand on me dit, c'est terrible, les petits revenus à l'hôpital, j'ai envie de dire, c'est sûrement vrai. Personne n'a le sentiment de gagner assez. Et certainement, on pourrait payer mieux ces gens-là. Mais c'est pas vrai que rien n'a été fait. Il a été fait beaucoup plus qu'il n'avait jamais été fait, et dans des quantums, encore une fois, très substantiels.
Et alors, qu'en est-il de la complicité de la BCE, Patrick Artus ?
Non, juste un mot de réaction sur Philippe. Je crois qu'il ne faut absolument pas mesurer le plein emploi par le taux de chômage. Il faut mesurer par le taux d'emploi.
Par le taux d'emploi, oui.
Et on a un taux d'emploi qui est de 68%. Il a monté de 3 points depuis qu'Emmanuel Macron est président, dont un point qui est lié à l'apprentissage, mais deux points... Et puis l'apprentissage, c'est pas honteux, hein, donc mais on n'est qu'à 68 et les autres sont entre 78 et 80. Donc on a 10 points de taux d'emploi de moins que les Allemands. Et ça, c'est l'énorme problème de la France. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait 14% de plus d'emplois. Et on aurait à peu près 10% de plus de PIB, parce que ces nouveaux emplois seraient un peu moins productifs. On aurait un équilibre budgétaire cette année. Et donc le problème de la France, c'est qu'elle vit au-dessus de ses moyens, mais pas tellement, parce qu'il y a trop de dépenses publiques, mais qu'il n'y a pas assez de recettes, parce qu'il y a un taux d'emploi qui est structurellement trop bas. Donc le seul objectif décent de politique économique, c'est de faire monter le taux d'emploi à 78%.
Et c'était Gilles Berset qui avait calculé que c'était, si on était au niveau que vous décrivez, on aurait 120, 130 milliards par an.
Oui, mais c'est 5 points de PIB de plus. Bon, et alors sur la BCE, il faut voir que la BCE a entretenu cette croyance de l'argent gratuit. Enfin, quand l'État s'endette à des taux d'intérêt nominaux négatifs, c'est trop tentant et on pense que ça va être jusqu'à la fin des temps. Donc il y a aussi une responsabilité de la BCE. La BCE a maintenu une politique beaucoup trop expansionniste trop longtemps. L'avait déjà fait avant de 2017 et l'a fait à nouveau. Cette alimentation par la création monétaire d'une aisance de financement des États, c'est aussi une partie de l'équation.
Et Laurence Boone ?
Je trouve un peu... qu'on devrait un peu plus mesurer sur la BCE, dont on a attendu qu'elle fasse ça à la fois au plus fort de la crise financière, de la crise souveraine de la zone euro et du Covid. Que les États... et que les citoyens se disent qu'elle va faire ça tout le temps, c'est leur problème d'anticipation. Je ne crois pas que la BCE a été particulièrement... Quand on regarde, Isabelle Schnabel faisait une présentation dimanche dernier à Kiel, quand on regarde, et je faisais partie de ceux qui disaient que l'inflation serait temporaire avec le Covid et la crise énergétique, et on voit très bien d'ailleurs, vous avez eu les chiffres ce matin...
2,1 en rythme annuel en France.
L'inflation était effectivement temporaire parce qu'on n'a pas eu de surdistribution non plus d'argent si on compare aux États-Unis pendant la crise du Covid. Donc je crois que la BCE, elle a bon dos. En plus, comme elle est politique, elle ne peut jamais vraiment s'exprimer en se battant avec ses petits poings comme un politique le ferait. C'est de la responsabilité des gouvernements de penser que l'argent gratuit ne va pas durer longtemps mais qu'il est là pendant la crise.
Oui, mais enfin, si je peux...
Patrick Artus,
on a une quantité de monnaie. Alors, je ne parle pas de la monnaie de la Banque Centrale. Je parle de la monnaie que nous avons tous dans notre poche.
La masse monétaire.
La masse monétaire qui est 30% en Europe au-dessus de là où elle était à la fin de 2019 et qui continue à croître. Moi, je pense qu'il y a trop de monnaie dans l'économie et que ça, d'abord, ça participe au malaise parce que, effectivement, ça enrichit les riches. Le supplément de monnaie fait monter les cours boursiers, fait monter les prix de l'immobilier, etc. Les classes moyennes investissent en obligations, en livret A, en assurance vie, qui ont des rendements financiers bas. Les gens aisés investissent en immobilier en actions, qui ont des rendements financiers élevés. On s'est jamais penché sur la cause du mal-être et de cette hausse très forte des inégalités patrimoniales.
Je suis Alors, il y a deux choses sur lesquelles je suis assez d'accord. Je pense que cet excédent de monnaie, comme Patrick l'appelle, est allé par exemple beaucoup dans le financement du private equity. Vous regardez aujourd'hui, les investissements des private equity baissent avec le durcissement de la politique monétaire. Donc on est en train de voir une sorte de normalisation de cet effet. Ça met toujours du temps à passer dans l'économie, mais c'est là depuis deux ans ces investissements-là. Et puis on n'était peut-être pas obligé de rajouter en plus de la masse monétaire des investissements d'institutions financières publiques en plus vers ce type d'entreprise aussi.
Mais c'est vrai.
La combinaison des deux.
Sur l'inflation, d'abord, moi je me rappelle, vous avez cette pancarte magnifique, un train peut en cacher un autre. Il y avait une inflation de court terme circonstancielle, exogène, due à je sais pas quoi, à la guerre, etc. Il y a plusieurs facteurs, Covid, goulot d'étranglement, mais il y avait aussi, je pense, une inflation un peu structurelle qui tenait à un excès de monnaie. Donc le fait qu'on se dise, non mais tout ça, tout va rentrer dans l'ordre, bah, oui, pour le train qui passe et qui ne fait que passer, mais tout ne rentre pas dans l'ordre si on ne reprend pas de la masse monétaire au titre de l'excès de monnaie structurelle. Ouais. Et donc moi je n'entends que des gens qui me disent, non c'est structurel ou c'est conjoncturel. Je me dis, mauvaise nouvelle les gars, c'est les deux. Il fallait lutter contre l'inflation. Mais enfin, il y a un problème maintenant contre le risque de déflation, contre le risque de ralentissement économique. Mais il y a un problème maintenant. Il reste trop de monnaie en circulation. Je pense que ce que Patrick a évoqué, c'est-à-dire l'accroissement des inégalités à la faveur d'une politique monétaire extrêmement et très longtemps accommodante, c'est quelque chose qui est très voyant. Donc une partie du mécontentement, à mon avis, tient à ça. Quand vous êtes très riche, vous pouvez vous endetter. C'est triste, mais c'est comme ça. Quand vous êtes très pauvre, vous pouvez pas vous endetter. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc quand vous avez 5, 7, 10 ans où les riches peuvent s'endetter, devinez quoi, ils s'enrichissent. Alors, on voit pas ça de manière spectaculaire en France parce qu'il y a tous les effets de redistribution du point de vue des revenus, du point de vue patrimonial. Il y a quand même eu une petite dérive. La BCE a accru les inégalités avec, à mon avis, une exposée des motifs qui n'est pas complètement satisfaisant.
Dire deux choses. La première, c'est que la BCE a commencé à augmenter ses taux avant la Fed, je vous rappelle, et à mettre en place des mesures de restriction de sa politique monétaire plutôt que les autres. Et à l'époque, tout le monde lui a crié dessus en disant « malheureuse, elle fait ça trop tôt ». Mais elle le fait. Et la deuxième chose, et je pense que ce que vous disiez était assez important, c'est que les Français bénéficieraient de cette hausse des marchés financiers et de cette hausse des actions si on avait quelque chose qui s'appelle le fonds de pension qui viendrait compléter la retraite. Et le meilleur moyen de faire des Français des capitalistes, c'est de leur donner des fonds de pension pour qu'ils bénéficient de ces actions.
Dieu sait si j'ai souvent utilisé cet argument en disant on dénonce constamment les dividendes, pourquoi ne pas en profiter. Je voulais avoir... Eric Heyer était l'un des premiers à réagir là avec les programmes dans la semaine, je crois. Et le truc qui l'inquiète le plus... c'est cette menace de faire un bras d'honneur à la parole française donnée à l'Europe. Et un vrai bras d'honneur. C'est pas « ah bah oui, j'ai pas tenu mes objectifs de déficit, je suis désolé ». Non, c'est d'assumer un bras d'honneur au niveau européen. Et il considère que là, il y a quelque chose de fondamentalement grave qui n'émeut personne, Laurence.
Parce que, en fait, on va pas se mentir, l'Europe, c'est en grande partie ce qu'en fait la France et ce qu'en fait la France avec l'Allemagne. Ça peut être injuste parfois pour d'autres pays, mais le bloc, ce qui fait avancer l'Europe, ce qui a fait le sauvetage de la Grèce pendant la crise de la souveraine de la zone euro, ce qui a fait la mise en œuvre du plan Next Generation EU, ce qui a fait les achats de vaccins Covid, je sais que vous en avez eu les oreilles rabattues pendant cette campagne, mais ce qui fait avancer l'Europe, c'est la France et la France avec l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en partie, on tolère nos dérapages budgétaires. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe, c'est un peu la vraie vie comme ça. Maintenant, à partir du moment où on va avoir une France qui ne propose pas d'avancée européenne, qui va se mettre en travers, soit sur l'Ukraine, soit effectivement faire, comme on dit, des bras d'honneur, mais au lieu de discuter des pour et des contre, je remarque d'ailleurs que tout le monde est en train de rétro-pédaler sur ces sujets. Mais le fait est que l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est du consensus. Ça, c'est difficile à comprendre pour des partis politiques français. Et de la, pour reprendre un terme très à la mode, qui est un peu agaçant, de la co-construction. Aussi très difficile à comprendre pour les Français. Pour les partis politiques, pardon. Donc, effectivement, ça va proposer un sujet. Et le sujet, pour moi, il a deux conséquences immédiates assez terribles. La première, on parlait de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro ? Pour arrêter les dévaluations qui sapaient le pouvoir d'achat des ménages régulièrement comme un métronome. Ça, c'est la première chose. Et on risque de voir effectivement des effets sur l'euro. Et la deuxième chose, c'est est-ce que nous, la France, tout formidable qu'on soit, avec nos 65 millions de citoyens, on a la taille de discuter sur un pied d'égalité avec les États-Unis et la Chine? Faut pas se leurrer. Ils nous écoutent parce qu'ils savent que derrière nous, il y a 440 millions de citoyens européens. Donc si on sape ça, on va avoir une double claque, à la fois sur l'euro et sur notre capacité à juste affirmer notre souveraineté à nous, puisque c'est le mot que tous ont à la bouche.
Vous voulez dire un mot là-dessus ou j'avance?
J'entends ce que dit
Laurence. J'ai mes 100 milliards après, je vais commencer avec Patrick sur mes 100 milliards.
J'entends ce que dit Laurence et je suis d'accord pour l'essentiel. L'idée que la puissance de la France ne peut passer que par l'Europe, je pense que
j'ai dit c'est aussi ça.
L'idée que, par exemple, on ne peut peser face à la Chine et face aux États-Unis que si on est européen, moi je trouve qu'elle est sympathique sur le papier. En théorie, elle vole, mais elle ne marche pas, cette idée. Et ça se voit, d'ailleurs, on pèse très peu quand on discute avec les deux autres blocs. Les Européens ne pèsent presque pas. Nos consommateurs, de toute façon, les autres, ils voient bien que nos consommateurs, ils ont la liberté d'acheter ce qu'ils veulent. C'est pas la peine de nous faire plaisir pour que les consommateurs achètent des trucs américains.
C'est faux.
Je vois pas très bien.
Les véhicules électriques, on est en train de leur mettre des taxes dessus.
Regardez.
On va diminuer les importations.
Non, mais oui, il y a toujours des arguments.
Et on l'aurait jamais fait tout seul.
Parce que
c'est le cognac qui prend, c'est aussi bête que ça.
Non, mais le cognac prendra quand même s'il faut. Enfin,
Macron a tout seul décidé de réorienter le bonus écolo français, par exemple. Le bonus vert qu'on donne pour l'achat d'une voiture, c'est un choix politique national qui a, sans vraiment l'assumer, été un peu mis en place par un souci de protection vis-à-vis de la
voiture
chinoise.
L'Europe a plein de vertus, mais l'idée qu'elle nous permette de parler plus fort aux deux autres grands blocs, quand je dis c'est pas évident, c'est littéralement, ça ne me saute pas aux yeux.
Mais je comprends que ça ne saute pas aux yeux pour deux raisons. La première, c'est qu'on pour l'instant, c'est pas le cas. On peut se le dire, Ursula, Olaf Scholz est parti tout seul en Allemagne, le président a emmené Ursula. Quel est le programme, puisque c'était une question que Nicolas voulait poser, quel est le programme pour cette mandature, pour les 5 années de l'Union européenne? C'est exactement de construire ça. C'est quoi? C'est de l'énergie pas chère, puisqu'il faut reconnaître qu'elle est 2 à 3 fois plus élevée qu'aux États-Unis en Chine. Et ça passe, par des investissements européens. Parce que là, on a des politiques qui se battent sur les éoliennes et le nucléaire, mais j'en ai aucun entendu dire comment il allait financer les nucléaires, comment il allait financer le réseau de distribution, et ça coûte très cher pour les éoliennes, et le stockage, et ça coûte aussi très cher pour l'électricité. Et ça coûtera moins cher si on optimise la consommation au niveau européen. Et pour ça, il faut des connexions. On entend dire qu'on sort, mais je rappelle qu'en 2022, sans l'électricité fournie par l'Allemagne, on avait des coupures de courant. C'est aussi bête que ça aussi. Donc je crois qu'il faut être un peu pragmatique. Il y a ça, l'énergie. Et ensuite, et d'une certaine façon, je ne suis pas en désaccord avec Philippe, si on veut parler à pied d'égalité avec la Chine, on ne peut pas le faire tout seul. Nous, tout seuls, ça va être une bataille, mon cognac, ton bœuf, ton porc, etc. Mais nous, à 440 millions, on reste quand même le marché le plus ouvert aux Chinois. Ça nous donne un pouvoir important.
On est un gros client des Chinois.
Mon dernier point, sur les investissements technologiques, qui fait les puces les plus sophistiquées, ce sont les Pays-Bas. Et on n'a pas besoin que de puces très sophistiquées. Et on a aussi besoin des puces que fabrique ST Microelectronics. Donc, si on veut être un peu fort... Et sur la recherche, c'est ce que disait également Patrick, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est en européen qu'on va arriver à être le plus fort.
Patrick, vous vouliez rajouter un truc là-dessus, Patrick Arcus?
Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème dans les politiques industrielles européennes, c'est qu'on ne peut pas faire de politique industrielle européenne.
C'est précisément ça qui est sur la table.
Oui, mais le problème, c'est que tu n'as pas de fédéralisme. Et donc, par exemple, si on décidait au niveau européen que le pays le plus avancé sur les éoliennes, c'est le Danemark, ce qui est d'ailleurs vrai, et que donc toutes les éoliennes européennes vont être fabriquées au Danemark, les Danois s'enrichiraient et il n'y aurait pas de redistribution vers les autres pays. Donc on est forcément dans une négociation de marchand de tapis qu'on va partager les installations dans chaque pays en fonction des rapports de force. Et donc l'absence de fédéralisme, l'absence de flux entre les pays de redistribution du revenu ne permet pas de faire une vraie politique industrielle européenne. La France ne peut pas être indifférente au fait que il faut qu'elle fabrique un certain nombre d'éoliennes, un certain nombre de batteries électriques et qu'elle ne peut pas sous-traiter ça à un autre pays européen. Et ça, c'est une faiblesse extraordinaire de la France, de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis sont un pays fédéral, installer de l'industrie ici ou là, il y a quand même...
Les bagarre au Congrès pour savoir où on veut mettre
les
sites, c'est
quand même ça. Mais il y a quand même 40% de transfert, 40% de distribution fédérale.
On sait de manière aujourd'hui claire que l'Europe n'est pas une zone monétaire optimale. Voilà.
Non, mais attends,
et le fédéralisme n'existera pas.
Deux minutes, la France ne produit pas tout ce dont elle a besoin. Alors, on vit dans un monde ouvert, on achète des choses, on en vend, enfin, on ne va pas tout rapatrier.
Mais sur les industries stratégiques, tu
sais. On peut faire du nucléaire et leur acheter des éoliennes si elles sont moins chères.
Oui, mais.
Non, moi, ce qui me frappe sur l'Europe, c'est le coût de coordination croissant. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de politique monétaire. Coût de coordination croissant et résultat de moins en moins adapté à chacun des pays. Typiquement, vous voyez, par exemple, sur les folies, sur les projets salariaux qu'on évoquait tout à l'heure, rappelez-vous du temps de la Bundesbank. La Bundesbank n'avait même pas besoin de le dire, mais on savait qu'elle risquait d'augmenter les taux s'il n'y avait pas des négociations salariales qui lui paraissaient convenables. Bon, bah, il n'y a plus rien de semblable avec une banque centrale européenne qui règne sur un tas de pays qui ont des négociations complètement différentes et qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc il y a un problème de, comment dire, la moyenne ne peut correspondre que par hasard et temporairement aux besoins d'un des pays. Et ça ne peut jamais correspondre aux besoins de chaque pays à chaque instant. Ce n'est pas possible. Donc il y a
possible.
Ça, et puis il y a le coût de coordination. C'est typiquement ce qu'on dit sur les programmes de recherche, etc. Moi, combien de témoignages j'ai eu d'entreprises, de spécialistes du sujet qui vous disent, c'est effrayant, c'est-à-dire qu'on a des sommes qui sont disponibles et qui ne sont pas mobilisées par ceux qui pourraient en bénéficier, mais ceux qui devraient en bénéficier pourraient en bénéficier, vous disent que c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'il faut 18 mois et dépenser des sommes folles en conseil pour accéder à l'argent. Parce que, et c'est bien normal, l'Europe doit veiller aux équilibres, ne peut pas donner de l'argent à n'importe qui, mais vous avez un système bureaucratique, vous avez un coût de coordination entre États au moment où on prend des... Donc le bazar est délicieux en théorie, mais concrètement, c'est un bousin super lourd, et ça explique une partie de notre sous-compétitivité, moi j'en suis certain.
Mais alors, je vais dire deux choses. Alors il y a trop de bureaucratie, ça on est tous d'accord, et je pense que de toute façon, dans une administration dont dans laquelle on rentre à 25 ans et on sort à 60 ans, forcément, il y a un moment où il faudrait aller dans l'entreprise, il faudrait aller sur les territoires, etc. Maintenant, je vais dire une chose. L'Union européenne, c'est quoi son instrument ? La Commission européenne, elle peut faire quoi comme politique économique ? Elle a un outil, la norme. Et c'est exactement d'une autre façon ce que vous disiez tous les deux. Quand on a de la norme, eh ben on produit de la norme pour donner des incitations, pour interdire ou autoriser des choses. Si elle avait un petit budget, un tout petit peu plus gros que celui qu'on lui a donné aujourd'hui. Elle utiliserait un peu plus son budget et de la façon, on peut l'espérer, pour avoir une bonne allocation sur les priorités des pays de l'Union européenne. Donc je crois qu'il ne faut pas se mentir, tant qu'on refusera de lui donner autre chose comme outil que des normes, eh ben, elle produira des normes. Le jour où on lui donne un peu de politique budgétaire sous contrôle des parlementaires européens, évidemment, on aura peut-être un peu moins d'inflation de normes.
Elle pourra au moins, enfin, elle aussi, gaspiller l'argent public.
Pas forcément.
C'est dommage, tout le monde a le droit de le faire, sauf elle.
Non, mais il y a ceux qui vous diront...
Je plaisante, oui, c'est une provocation. C'est pas complètement faux.
Non, mais il y a un bon point qui est que je pense que ça n'arrivera pas.
Dans le micro, budget, Laurence, dans le micro, oui.
Ça n'arrivera pas qu'on lui donne un hostile budgétaire tant qu'on ne saura pas maîtriser nos finances publiques à nous.
100 milliards, c'est l'argent qu'il faut mobiliser en 4 ans si l'on veut retrouver un solde budgétaire primaire positif, nous dit l'Institut Bruegel. Est-ce que ce chiffre pourrait valider, Patrick Artus, l'idée qu'en fait Emmanuel Macron a refusé l'obstacle et qu'il a préféré dissoudre l'Assemblée nationale parce que la situation étant tellement ingérable et tellement chère qu'il valait mieux repasser la patate chaude ?
Oui, alors, l'objectif faut expliquer. On a des taux d'intérêt réels qui sont à peu près notre croissance de long terme. Donc, si on veut arrêter la hausse du taux d'endettement public, il faut qu'on ait un équilibre budgétaire primaire, c'est-à-dire hors intérêt
sur la dette. Hors remboursement de la dette.
Et aujourd'hui, le déficit budgétaire primaire est un peu plus de 3% du PIB. Hein. Donc, c'est pas forcément 3 milliards, c'est au moins 80 milliards de baisse du déficit budgétaire primaire. Cela étant, le déficit budgétaire total va augmenter au fur et à mesure que les intérêts sur les dettes publiques augmenteront, mais il faut raisonner en termes de déficit budgétaire primaire. Et donc, le pire, c'est que quand vous réduisez de 1 le déficit budgétaire primaire, avec les effets multiplicateurs divers qui est que y a moins de revenus, il y a moins de consommation, il y a moins d'investissement, en général, vous n'obtenez que 1,5 de réduction du déficit public.
1 égale 0,5. Ouais,
donc voilà. Mmh. Et donc, pour réduire de 80 milliards d'euros d'ici 2027 le déficit budgétaire primaire, il faut réduire de 160 milliards d'euros en réalité, si si vous n'utilisez que les dépenses publiques.
Ah, vous dites pas 100, vous dites 160.
Ouais, faut, c'est 160, parce que c'est en gros, c'est les résultats de simulation des modèles. Et donc 160 divisé par 3, donc en gros, ça fait 160 divisé par 3, ça fait plus de 50 milliards d'euros de baisse des dépenses publiques chaque année. Ouais. Donc, personne ne croit que c'est faisable.
Hein, moi, personne je crois, ne moi, croit
que c'est faisable.
Oui.
Mais non, on l'a jamais fait. Hein.
Non.
Même là, cette année, on fait 20 par surprise.
Ouais. Moi, on me dit toujours, on l'a jamais fait. Mais d'autres l'ont fait.
Oui. En même temps,
il y a 6 mois de récession et historiquement, ça n'a aucune importance.
Non.
Et après, ça se redresse. Vous voulez des effets d'offre, vous voulez arrêter les fouilles budgétaires.
Regardez ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal. Je parle pas de la Grèce.
Ils vont très bien aujourd'hui.
Simplement,
Portugal, c'est plutôt de bon élève.
Le Portugal est au niveau de PIB de 2008. Hein, donc il a voilà et donc ça fait
forcément
ça...
il avait acheté du faux PIB à crédit avant, donc voilà. Il a fallu purger, enfin tout ça est parfaitement normal.
Et sa spécialisation productive a chuté parce qu'ils ont baissé les dépenses d'éducation, les dépenses de recherche, les dépenses d'investissement public, et donc c'est devenu une économie qui fait du tourisme et des biens de consommation, et donc c'est pas complètement réjouissant cette perspective, y compris par les effets à nouveau sur les spécialisations productives, parce que si vous voulez baisser énormément les dépenses publiques, vous devez toucher aux dépenses d'éducation, dépenses de recherche, aux dépenses de politique industrielle. Vous pouvez pas.
On a la chance en France d'avoir tellement de dépenses publiques qu'il y a beaucoup de choix alternatifs.
Honnêtement,
fermer les dépenses,
je pense que c'est impossible. On réduira pas de 160 milliards d'euros les dépenses publiques. On réduira pas de 80 milliards d'euros le déficit public primaire. Et donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'effet de cette impossibilité de réduire suffisamment les dépenses publiques?
Vous pensez, Patrick, qu'on n'y arrivera pas parce que ce serait socialement inacceptable et refusé par la population?
C'est inacceptable. C'est pas forcément une bonne idée, parce qu'en même temps, il faut faire davantage de dépenses militaires, davantage de dépenses de transition énergétique, davantage de dépenses de politique industrielle. Donc, ça imposerait un effondrement de la dépense sociale qui est complètement... Et donc, on peut pas exclure qu'Emmanuel Macron n'ait pas voulu tenter ça. Moi, je pense que si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais 10 sous pour donner le bébé à d'autres de la réduction de 160 milliards d'euros des dépenses publiques sur 3 ans. Quoi.
On a 1 minute 30 pour conclure. Est-ce que vous redoutez les réactions de marché dès lundi 1er juillet, par exemple, Laurence? On a vu que ça a un peu tangué au début, après la Disso, mais ensuite, finalement, on a réduit le spread avec l'Allemagne, la Bourse de Paris s'est un peu reprise, enfin, un peu.
Écoutez, on ne connaît pas le résultat des élections. Moi, je vais dire juste une chose, c'est que... Si l'engagement européen est là, si l'engagement de travailler avec l'Europe est là, effectivement, on peut avoir un soutien de la Banque Centrale Européenne, et ça, les marchés le savent et ne feront pas. Si ce n'est pas le cas, les marchés vont se poser des questions. Après, vous avez vu ce qui s'était passé aux États-Unis au moment de Trump. Ça a duré assez peu longtemps, pour la bonne raison que les Américains ne sont pas du genre à lâcher des actifs américains pour aller acheter d'autres choses.
Bon, on a fini.
C'est fini. Alors.
Bah oui, c'est fini là. Bon, on n'a pas tout fait dans le programme, mais j'aime bien la phrase de Jean-Louis Bourlange dans Les Échos ce matin. Le drame français, c'est le décalage entre les besoins du pays et ses attentes. C'est un peu la conclusion de ce que vous disiez.
Mais c'est vrai, mais c'est pour ça que, enfin, on peut jamais, c'est jamais un argument de dire mais on est les meilleurs d'Europe là-dessus, parce qu'ils sont contrebalançants.
On se retrouve après le premier tour lundi, donc. Hein. Attendez, maintenant qu'est-ce que je raconte? Si, on est bien vendredi. Je suis un peu déphasé.
Vous voyez lundi?
Non. On se verra peut-être à Aix, je sais pas. Oui, probablement. Donc voilà, on se retrouve lundi à 9h. Merci Laurence Boone, merci Patrick Artus et merci Philippe Manière.
Merci. Vous êtes toujours enregistré, là.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.